Bigre Radio. Bigre Radio.
Bigre Radio.
Bigre Radio.
De retour sous le soleil de 7 en ce mercredi 27 août pour la deuxième émission de la semaine. Après avoir parlé de recherche-action, cette fois-ci aujourd'hui, on s'intéresse au CSE. CSE Quesaco, Conseil social et économique. Moi-même, je n'y connais pas grand-chose, donc aujourd'hui, je m'appelle Candide. Mais j'ai des invités. Et ça, c'est chouette. Bonjour Séverine Imbert.
Bonjour Maëlys.
En quoi es-tu aujourd'hui impliquée dans un CSE ?
Impliquée, concernée, je suis en tant que salariée, donc membre élu du CSE d'Auxalis. Je suis donc en coopérative Auxalis depuis 2019. Voilà, je suis salariée structure, j'accompagne les entrepreneurs dans le développement commercial de leur activité, qu'ils soient sur des activités individuelles ou collectives. Et donc, j'ai un mandat. Je suis titulaire au CSE en tant que donc membre équipe. Voilà, et je représente les salariés de l'équipe et les salariés au sens large de la coopérative, les entrepreneurs salariés, au même titre que mes collègues du CSE.
Parce que donc, il y a une actualité autour de cette histoire de CSE, c'est que depuis 2020, dans les entreprises de plus de 11 salariés, il est obligatoire d'avoir un CSE. Donc on se dit ça c'est l'actu, mais qu'est-ce qui se passait avant ? Il n'y en avait pas ? Comment ça se passait ? J'ai Anne, Peter, Geffrier à côté de moi de Copanam qui peut peut-être répondre à cette question. Comment c'était avant ?
Alors avant c'était multiple, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois un comité d'entreprise, un CHSCT, donc pour la partie hygiène, sécurité sur les lieux de travail, et il y avait aussi des délégués du personnel, voilà. Et pour des raisons politiques diverses, on va dire ça comme ça, notamment peut-être, enfin, et aussi pour certaines entreprises, des questions pratiques qui avaient été soulevées, il y a eu un regroupement de toutes ces instances en une seule, donc le CSE, qui regroupe toutes les casquettes, les anciennes casquettes du CHSCT, des délégués du personnel et du CSE. Alors là, c'est et du comité d'entreprise. C'est à grands traits, hein, voilà.
Oui, mais on est là quand même pour vulgariser tout ça, d'ailleurs, parce que ça fait très jargon, etc. Donc plus concrètement, à quoi ça sert ces instances dans le quotidien, vraiment.
Donc le CSE, je réponds, hein, le CSE c'est vraiment...
Ah bah
vraiment...
oui, je me tourne vers toi, donc tu peux répondre.
Quand tu me regardes avec ces yeux insistants, voilà. Je comprends que c'est pour moi. Le CSE, c'est une instance de représentation du personnel, c'est un organe essentiel de la vie de l'entreprise. Donc on a des attributions au CSE en matière de santé et sécurité au travail, et on a donc un rôle à jouer aussi en matière de représentation du personnel. La condition étant de représenter plutôt donc, des salariés de la coopérative. Il se trouve que chez Auxalis, il y a 225 salariés sur 290
donc là,
personnes.
On a largement dépassé les 11, donc on est obligé. Hein.
Oui, voilà. Donc ça fait pas mal de monde à représenter, avec une grande diversité de profils, puisque vous le savez, dans la CAE, il y a de multiples formes possibles de salariat. Voilà, entre les membres équipes, voilà, équipe mutualisée. On a aussi donc des membres, des entrepreneurs salariés, voilà. Pas les CAP, donc, hein, les CESA. Et on a aussi, parfois, sur des activités qu'on appelle employeuses, des contrats, des CDI ou des CDD renforts.
Voilà. Là, tu nous as rajouté des acronymes en simplifiant. Peut-être, Anne, tu peux nous le dire. En simplifiant, qu'est-ce qui se passe dans un CSE ? Une réunion de CSE, qu'est-ce qu'on résout ? De quoi on parle ?
Alors, dans une réunion de CSE, d'abord, ce qui est bien, c'est qu'on a un ordre du jour. Donc, on l'a préparé collectivement. Et du coup, on va avoir une partie sur des thématiques qui peuvent être très diverses. Par exemple, on peut avoir la stratégie économique de la structure qui peut être... De l'entreprise, de façon générale, pardon, qui peut être questionnée. Il peut y avoir des retours de problèmes qui ont pu avoir lieu. Par exemple, on peut imaginer un accident du travail qui a pu avoir lieu. On peut aller le questionner, savoir ce qui s'est passé, essayer de voir ce qui va pouvoir être mis en place pour qu'il ne se reproduise pas. Ensuite, on va pouvoir aussi parler de problèmes ou de questions plus globalement d'organisation, la mise en place d'une nouvelle organisation au sein de l'équipe structure va être proposée, puisque c'est d'abord une proposition, en CSE. CSE qui va mettre un avis, peut-être avec des réserves, des propositions d'évolution, etc. Et ensuite, il y aura une mise en place de cette organisation au sein de la structure. Donc c'est très vaste. Peut-être que le point particulier, c'est que au sein des CAE, dans les CSE des CAE, on apporte très peu ce que d'autres CSE vont peut-être visibiliser plus, du type tout ce qui est l'arbre de Noël, tout ce qui est œuvre sociale, où on a un budget beaucoup plus restreint, voire inexistant pour certaines CAE. Et du coup, ça, ce sont des thèmes qui ne sont pas ou peu abordés dans les CSE ou qui pourraient l'être au sein des CSE de CAE. Désolée pour les acronymes.
En tout cas, chez Copanam.
Il y a Copanam, mais il y en a aussi d'autres il y a d'autres modes de fonctionnement. À Copanam, effectivement, le budget est très très restreint. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont ouvert, mais voilà, je laisse la parole aux autres là-dessus.
Samuel Evin, bonjour. Notre bonjour. Outsider, puisque tu n'es pas dans une CAE, mais tu es chercheur et tu travailles sur le dialogue social dans les CAE. Donc j'ai cru comprendre que le CSE rentrait dans ta problématique. Tu peux nous expliquer pourquoi ?
Tout d'abord, moi je suis doctorant. Mon sujet de thèse porte sur le dialogue social dans les coopératives au sens large, et en particulier dans les coopératives d'activité et d'emploi, qui forment intrinsèquement un terrain très particulier, dans le sens où on a parlé, par exemple, de toutes les entreprises qui étaient qui avaient la nécessité de mettre en place un CSE, qui est quelque chose d'obligatoire depuis 2020, on l'a rappelé, et qui est obligatoire pour les entreprises qui font plus de 11 salariés. Donc une grande, grande majorité des entreprises en France font beaucoup moins de 11 salariés. Il y a 96% des entreprises qui sont au-delà de ce seuil de 11 salariés, donc qui sont dans l'obligation de mettre en place le CSE. Et dans les CAE, c'est complètement l'inverse. On intègre dans les coopératives d'activité et d'emploi les entrepreneurs qui sont aussi salariés, et donc salariés à l'intérieur de cette coopérative. Ce qui fait que, globalement, les CAE, il y a 80% des CAE qui sont au-delà du seuil des 11 salariés, et donc qui se confronte à l'obligation légale de mise en place d'un CSE, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. À l'intérieur d'une CAE, il y a des salariés qui font partie de l'équipe structure, qui eux sont ont un temps pour la plus, enfin, plein ou à temps partiel, mais qui sont rattachés à l'entreprise coopérative, que ça peut être de la CAE, et des entrepreneurs salariés qui, eux, leur temps de travail dépend de l'activité que eux peuvent avoir. Donc on peut déjà voir qu'il y a deux types de salariés, deux typologies de salariés à l'intérieur de la coopérative d'activité d'emploi. Et donc le CSE que l'on connaît, qui est généralement déployé dans l'ensemble des entreprises, est pas forcément adapté, et adapté soit pour l'un, soit pour l'autre, mais pas forcément exactement le même pour les deux. Voilà, c'est la problématique.
Mais en quoi, toi, cette question t'intéressait pour en faire un objet de recherche ?
Alors, ça m'intéresse.
La question du dialogue social et du CSE.
La question du dialogue social, c'est quelque chose que l'on entend généralement de par même la typologie même des coopératives. On a dans l'inconscient, dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, on a, et puis même de manière des définitions, le dialogue social, c'est ça s'oppose régulièrement, généralement, pardon, ça oppose généralement les ouvriers, les employés, et les détenteurs du capital, qui peuvent être les patrons ou qui peuvent être des actionnaires. Et donc il y a cette dualité qui existe dans les entreprises, on va dire, classiques, entre guillemets. Le champ est les coopératives, où le capital appartient aussi aux salariés, alors qu'est-ce que l'on oppose ? Est-ce que l'on oppose un patron qui n'est pas un patron, mais le salarié est lui-même patron. Cette dualité, de fait, n'existe plus. Quand on arrive dans les CAE, quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est qu'on amène une troisième dimension qui est entrepreneur. Donc on est entrepreneur, patron, salarié. Comment l'imaginaire que l'on peut avoir du dialogue social qui oppose ouvrier et patron peut être intéressant à gratter, à explorer, à documenter dans les CAE. C'est ce qui m'a assez intéressé dans l'étude que je mène.
Oui, c'est cette multiplicité en fait de fonctions qui se mélangent. C'est beaucoup plus divers qu'avant en fait.
La forme CAE n'est pas très très vieille. La forme CSE est encore moins vieille. Alors que le dialogue social, ou en tout cas, après on pourra peut-être venir au syndicalisme, mais le dialogue social existe depuis depuis que les entreprises existent, même si on ne l'appelait pas forcément comme ça. L'enjeu aussi, c'est d'adapter peut-être les formes de rapport de force, de syndicalisme que l'on a l'habitude d'entendre à des formes nouvelles d'entrepreneuriat et des formes nouvelles d'emploi.
Ah bah, superbe transition pour introduire Gaël Tanguy. Bonjour.
Salut.
Apparemment, tu es très à cheval sur les questions de syndicalisme.
À cheval, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai une grosse expérience.
Oui, voilà. Et la Bigre 2022, là, cette année, a produit beaucoup d'ateliers autour de ces questions et de la question des CSE. Comment le syndicalisme vient s'insérer dans cette nouvelle donne ?
Eh bien, pas facilement, parce que ce n'est pas du tout culturel dans les coopératives d'avoir des syndicats d'implantés, déjà, ce qui peut se comprendre, puisque historiquement, l'intention, c'était de se passer du patronat et que du coup, dans une coopérative, les salariés, c'est eux qui sont propriétaires de l'outil de travail collectivement. Du coup, pourquoi prendre un syndicat alors que c'est déjà les salariés qui sont au pouvoir, quoi, en gros. Donc du coup, culturellement, il y a un gros blocage là-dessus. C'est pas trop fréquent qu'il y ait des syndicats qui se mettent en place dans les coopératives, ou alors c'est que ça va mal. C'est que ça bat de l'aile, c'est qu'il y a un plan social bientôt, c'est qu'on va peut-être déposer le bilan, des choses comme ça, quoi. Et du coup, forcément, quand ça arrive, le rôle du syndicat est pas très réjouissant, et en général, ça se passe pas super bien. Donc en plus, l'image des syndicats est pas forcément
c'est
hyper
positive.
C'est
dans la lutte, quoi.
Ouais, voilà. Alors qu'on peut très bien imaginer qu'un syndicalisme qui serait justement dans un esprit coopératif, donc ça veut dire aussi que le syndicalisme doit changer peut-être un peu sa façon habituelle de fonctionner, quoi, puisqu'il n'y a pas un patron à abattre en face. Le patron, c'est aussi nous. Enfin, tu vois, c'est un peu schizophrène comme situation. Donc en gros, d'un côté, il y a des gens qui ont été élus du côté des salariés de la coopérative pour défendre un peu l'intérêt des salariés. Et puis leurs interlocuteurs, c'est à la fois le CA, le conseil d'administration, où c'est aussi des copains salariés qui sont élus et qui siègent pour défendre un peu les intérêts de la coopérative, qu'elle soit pérenne, qu'elle puisse continuer son travail pendant longtemps. Et puis, au milieu de tout ça, il y a des fois un directeur ou un DG, et puis une directrice, par exemple, des ressources humaines, qui font un peu un triangle, comme ça, entre donc, le CA qui pilote politiquement, la DG qui doit organiser concrètement le travail, et puis le CSE, les élus du comité social et économique, parfois appuyés ou aidés par un syndicat.
Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, réquisition ma 11 chevaux légère, string fer botten provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés, monté sur des pneus tout neufs. Je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup, une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun devalait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro. Ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. Almayenne et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied. Aller-retour, les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne se mêle plus. Mais à ne me prudente et perspicace, pour l'avenir, j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite, bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit.
Et voilà, comme Brassens, tous les jours, Séverine Imbert va à son bureau. Ouais, cette transition était trop surprenante.
Oui. C'est vrai, elle fait d'autres choses par ailleurs.
Ah d'accord. Oui. Et donc, pour aller un peu dans l'intime, pourquoi tu as décidé de te saisir de cette question des CSE? C'est quand même intéressant de voir le parcours des gens qui aujourd'hui sont représentants dans les instances.
Alors j'ai rejoint le CSE d'Oxalis lors de la dernière élection, donc en 2019. J'étais arrivée dans la coopérative en stage l'année qui avait précédé. La coopérative traversait alors une crise qu'on pourrait qualifier de sans précédent. Et en même temps, il y en a eu d'autres et il y en aura probablement d'autres. Il paraît qu'elles sont, structurantes dans le développement de la coopérative. Voilà. Et donc cette crise a pas mal ébranlé les individus, l'équipe dont je faisais partie. Et en fait, moi, pour faire court, mais j'ai un... En 2018, donc quand j'ai atterri chez Oxalis en stage, ce stage s'inscrivait dans une reconversion professionnelle et j'avais passé 14 ans à travailler dans des organisations ultra-capitalistes, très formatées, très rentables et très donneuses de leçons, dans lesquelles je ne m'étais pas bien sentie, dans lesquelles je n'avais pas trouvé ma place. Et donc j'avais fait ce virage dans l'économie sociale et solidaire, pensant naïvement que j'allais trouver de fait des organisations vertueuses, pleines de bonnes pratiques, avec un engagement fort des individus et la possibilité d'en vivre vraiment, quoi, de bien en vivre de cette de leurs activités, du travail et d'être dans une qualité de vie. Et la réalité n'a pas été si simple. Voilà, c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'un moyen d'agir dans la coopérative était de rejoindre cette instance, un moyen de faire société et de construire du progrès social, avec des très chouettes chantiers qui étaient en place. Et puis un outil commun dont on devait prendre soin, puisque la crise en question a fait pas mal de casses sociale. Et donc en étant active au sein du CSE, j'œuvrai aussi pour la préservation de cet outil. Voilà.
Ok, parce que moi je vais le dire à titre personnel, mais dans les entreprises dans lesquelles j'ai été salariée, ça s'appelait pas CSE, effectivement on avait un délégué du personnel, mais on avait vraiment l'impression qu'on lui disait les choses, mais qu'on n'avait jamais... Enfin, c'était vain en fait, il y avait une sorte de... de côté vin à tout ça, qu'on n'avait pas vraiment de réponse, que ça allait s'évaporer dans l'air. Donc comment aujourd'hui on peut agir concrètement sur les choses qui sont remontées en fait au CSE?
Oula.
Vas-y, vas-y. Non, c'est d'abord Séverine et ensuite...
Il y a plusieurs moyens d'action. Il y a la possibilité de saisir un membre du CSE comme un délégué du... Enfin, voilà, en mode délégué du personnel, voilà, pour être... accompagné lors d'entretiens, lors de voilà de moments difficiles, voilà. Il y a possibilité de saisir le CSE sur des actions très concrètes, voilà. Par exemple, avec Gaël et Mathieu, on travaille sur les affaires sociales et culturelles, voilà. Parce que imagine toi, Maëlys, tu me dis mais j'aimerais bien tous les ans avoir peut-être des chèques culture. À Noël, comme dans ma vie d'avant, puisque j'ai vu qu'on cotisait 0,4% à l'Union sociale des SCOP, et bizarrement, j'ai rien dans ma popoche à la fin de l'année. Et donc, le groupe de, y a des groupes de travail qui peuvent se mettre en place et donc amener des prestations, voilà, des prestations pour obtenir de l'argent, des bonifications, des cadeaux en fin d'année, pourquoi pas. Et puis, il y a plein de chantiers sur lesquels on a progressé. Je pense au chantier, il y a eu un chantier maternité qui s'est ouvert avec l'ouvrage Quand la naissance s'invite au travail, qui a donné lieu à un travail de fond dans la coopérative entre CSE et équipe accompagnement, et qui a permis de mettre en place un parcours parentalité à destination des hommes et des femmes en situation de parentalité pour préserver du droit, du confort. Faire exercer les droits, préserver offrir du confort, et puis aussi
on est en train de nous offrir un peu de confort là.
C'est chouette. On prend soin de nous.
Il y a la bière fraîche qui arrive.
C'est offert par le CSE.
Ah.
Merci. Et en matière de santé et sécurité au travail, Gaëlle, la bière sur.
On va peut-être pas exagérer quand même. Bon, d'accord. Et donc Anne, toi, de ton côté, de chez Copanam. Comment tu t'es saisie de ces questions-là aussi? Comment tu es arrivée dans ce milieu? Et aujourd'hui, est-ce que c'est une question qui t'anime et qui épanouit aussi le reste de ton travail?
Alors, moi, je suis arrivée au CSE parce qu'en fait, déjà dans mon métier, donc moi, à la base, j'ai une formation de juriste en droit social. Et du coup, ça m'a... Enfin, voilà, dès la fac, j'étais intéressée par tout ce qui était création collective du droit via les accords collectifs, etc. Et ensuite, ça a évolué. Enfin, voilà, j'ai découvert la réalité terrain dans des entreprises, on va dire... classique entre guillemets, mais moi j'ai toujours été, du côté entre guillemets employeur, voilà.
Et c'est qu'est-ce que tu appelles la réalité du terrain ?
La réalité du terrain, c'est le fait que il y a une grosse différence entre ce qu'on imagine pouvoir mettre en place par des accords collectifs, etc., et le fait que ça prend du temps, qu'il y a besoin de prendre un temps de réflexion avec les acteurs en présence, s'assurer de ce qui a été fait auparavant, et prendre et aussi peut-être faire des tests, voir ce qui est faisable, se donner aussi la possibilité de se dire on va tester ça, on va voir comment ça fonctionne, et puis dans un an, on refait le bilan pour voir comment on avance, etc. Ça peut être la mise en place de télétravail, refaire un bilan un an plus tard, voir comment ça a fonctionné ou pas en vrai sur le terrain. Et voilà, la partie juridique que je portais un peu au nu parce que créatrice de droit quand j'étais en fac, voilà, je me suis aperçue que c'était plutôt la partie expérimentation terrain et que la partie juridique n'était là que pour offrir un cadre à la mise en place d'expériences de travail.
D'ailleurs, cette loi là qui oblige les CSE, elle est arrivée en plein Covid. C'est un peu dément, en fait, parce que la distance géographique était un peu coupée. C'était avant ?
En fait, c'était la deadline, entre guillemets.
Pour le faire.
Pour le faire. La loi, elle était avant Covid et 2020, c'est ça. C'était la date de toute fin où on a dit, bon, bah, là, c'était, vous aviez, les entreprises avaient plusieurs années pour le faire. Hein, ils étaient tous au courant, etc. Et donc, voilà. C'est... Mais effectivement, ça a pu poser des problématiques aux entreprises qui avaient tardé et qui se sont retrouvées avec... Je ne sais plus si c'est finalement des délais supplémentaires ou quelque chose comme ça, mais oui, ça a posé problème sur les entreprises qui avaient tardé.
Est-ce que cette question de période du Covid, elle a joué sur les CSE ? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée, Samuel, ou pas, dans ta problématique ou...
À vrai dire, je ne me suis pas trop posé la question concernant le Covid, mais pour revenir à cette date de 2020, en effet, ça, on a l'impression que 2020, c'est que le Covid. En fait, c'est arrivé en mars. L'obligation légale de mise en place de CSE, c'était au 1er janvier 2020. Et c'était issu des ordonnances Macron, qui sont elles-mêmes issues des lois travail, des lois M. Khomri qu'on a entendues depuis un moment... et qui ont été qui ont abouti et qui finalement ont fini au tout début du mandat de Macron à des ordonnances, les ordonnances Macron de 2017 avec une obligation légale en 2020, début 2020. Alors c'est sûr que c'est pas tellement mon champ, mais j'imagine bien que cette mise en place qui était la deadline étant 2020, il y a eu des dérogations pour un certain nombre d'entreprises et la mise en place a pris un peu de temps et a dû glisser encore un peu plus avec ces épisodes de Covid.
Ok, alors maintenant j'aimerais bien avoir le témoignage de quelqu'un qui a peut-être déjà fait appel à un CSE. Bah, viens au micro, voyons. Nous avons avec nous Orville qui arrive à l'arraché, à la volée plutôt on dit. Mais on a un super Alexandre Iaconi à la technique, je le rappelle quand même, qui fait les émissions tous les jours et qui est prêt à l'accueillir en quelques secondes. Bonsoir Orville.
Bonsoir.
Ah, avec un micro éteint.
Rebonsoir.
Plus près. Voilà.
Rebonsoir.
Bonsoir Orville. Est-ce que tu as déjà fait appel à un CSE du coup ?
Un CSE dans une CAE ou un CSE tout court. Bah, disons que oui, et j'ai même été dans un CE et pas n'importe lequel parce que c'était un CSE d'un syndicat, d'une organisation syndicale. Okay. C'est pas forcément trop le sujet, mais c'était quand même très intéressant de se rendre compte avec cette expérience-là, de savoir comment c'est possible d'étudier de près les constellations possibles entre coopératives et syndicats, notamment sur cette problématique de l'existence d'instances paritaires capital travail dans des structures économiques qui ont tendance à retourner ce paradigme-là. Et tout simplement, pour ce qui nous concerne, moi je travaille chez Smart, on n'a pas eu une loi fusion comme il y a eu en France. Donc on a toujours de manière distincte un conseil d'entreprise et un conseil de prévention et protection du travail, ce qui est... toutes ces compétences-là ont été fusionnées au sein d'un même CSE, chez vous, en France. Régulièrement, nos élus qui siègent dans ces instances nous font des retours sur ce qui est discuté avec les représentants de l'employeur et les différents chantiers qui y sont avancés.
Qu'est-ce qui est discuté ? Quel est le sujet qui revient le plus ? Moi, c'est quand même ça, ma grosse curiosité.
Souvent, ça va être les conditions de travail d'aménagement des bureaux locaux. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qui est d'actualité.
Mais ça, c'est pour l'équipe salariée. Du coup, c'est pas pour les entrepreneurs salariés.
Ouais. Mais alors ça...
Mais côté entrepreneurs salariés, on en parle assez peu. Ah, il y a Gaëlle qui me fait des grands signes de tête.
Ouais.
Je reviens vers toi après.
Pas de problème.
Je t'en prie, Gaëlle.
On en parle assez peu parce que le code du travail, tel qu'il a été... fabriqué à partir de ce nouveau statut de l'entrepreneur salarié associé, là, le CESA, laisse la quasi-totalité des responsabilités à l'entrepreneur salarié. Donc en fait, l'employeur se dégage un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un regard de responsabilité par rapport à la façon dont les gens travaillent, on n'a pas forcément un regard sur leurs congés, on n'a pas forcément un regard sur leurs horaires. Le salaire peut être changeant, comme c'est bien connu dans le statut d'entrepreneur salarié. Donc beaucoup de repères qu'on a habituellement dans les CSE sont complètement chamboulés, quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas s'en occuper, parce que ne pas avoir la responsabilité du temps de travail, ça ne veut pas dire que ce n'est pas problématique que les gens travaillent 70 heures par semaine. Enfin bon, tu vois, il y en a qui disent « oh, ça les regarde, ceux qui choisissent et tout ». Mais si on est un peu un regard de santé au travail, si on ne veut pas que les gens aillent vers un épuisement professionnel, si on ne veut pas que ça devienne un modèle qui incite les autres à plus travailler, etc. Si plutôt on défendrait par exemple les 32 heures un jour, tu vois. Et ben, du coup, si on veut inventer un autre rapport au travail, ça nous concerne un peu tous. Mais d'un point de vue légal, ce n'est pas le même cadre que les activités d'entreprise classiques.
Mais c'est des questions que toi, tu as été soulevée en CSE ? Alors comment moi, on fait aboutir une demande, en fait ? Moi, c'est ça. Par quoi on passe ? Il y a un formulaire ? Il y a un appel en ligne gratuit ? Non, je ne sais pas.
Excellent. Alors, en fait, moi, je ne suis pas encore au CSE. Je ne suis pas encore élu. Je pense me présenter au prochain CSE en décembre. Il y a trois types de choses qu'on fait au CSE. Il y a des choses qui sont régulières parce qu'elles sont obligatoires à traiter. Je sais pas, le plan de formation par exemple, tu sais, enfin ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est le plan de développement des compétences, mais le plan de formation de professionnels, dans chaque entreprise, on doit se mettre d'accord un petit peu sur qui va partir en formation l'année prochaine, faire quel stage, etc. Donc on a un budget, en général, on va essayer d'aller chercher d'autres financements pour le compléter. Et donc il faut discuter avec l'instance représentative du personnel pour savoir qui part, sur quel stage. Et là, évidemment, dans une CAE, c'est tout de suite assez bizarre aussi, puisque autant l'équipe structure ressemble à une équipe salariée habituelle, autant les 200 entrepreneurs, là, on ne sait pas trop ce qu'ils font, machin, ils sont des fois assez loin, ils sont assez loin de la structure du siège, on ne les voit pas forcément toutes les 5 minutes, et leur priorité n'est pas toujours de se former, mais de rentrer leur chiffre d'affaires. S'ils partent en formation et qu'ils n'ont pas de compensation financière, ils vont avoir du mal à sortir leur salaire.
Mais il y a une offre de proposition de formation, par exemple.
Voilà, ça, c'est obligatoire. Et un plan de formation, c'est une des 15 choses obligatoires à traiter. La prise en compte du handicap, maintenant, c'est obligatoire aussi. Il faut que le CSE s'y intéresse, voir comment on peut insérer plus facilement des personnes qui sont porteuses d'un handicap. On a la préoccupation des personnes qui sont en fin de carrière. Donc, on est obligé de faire un plan senior. Et dans les CAE, ça nous intéresse particulièrement parce que ça intéresse à la fois les gens qui vont partir. Donc là, peut-être qu'on peut imaginer des systèmes de, pas de pré-retraite, mais on appelle ça des retraites progressives pour pouvoir partir progressivement et pas se retrouver du jour au lendemain de 70 heures à 0 heure. Et puis aussi, ça intéresse la CAE parce que si d'un seul coup, il y a 12 ou 15 départs à la retraite, ça fait 12 ou 15 activités qui sortent de la coopérative puis qui sont perdues. Donc ça veut dire que le budget qui sert à mutualiser un peu toutes les personnes ressources comme Séverine ou comme la comptabilité, etc., on ne va plus avoir assez de budget pour les financer.
Donc faut ça les anticiper.
Bah, ouais. Et du coup, si on peut aller plutôt vers de la transmission d'activité, mais donc ça se prépare. Ça veut dire que, est-ce que la personne elle a envie de transmettre son activité ? Comment on peut faire pour que cette transmission elle soit réussie ? Est-ce que la personne elle diminue son temps de travail pour accueillir un nouveau, etc., etc.
Il a fait changer le monde de la musique avec deux doigts et une guitare, Django Reinhardt. Ici, on parle de CSE. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de revenir sur cette histoire de Covid, parce que ça a quand même déclenché pas mal de problèmes de santé mentale. Et en fait, j'ai l'impression que dans les CSE, c'est aussi une question qui peut être traitée. Parce que moi, quand je pense délégué du personnel, j'ai tout de suite tendance à penser mal-être. Enfin, moi, j'ai vécu aussi dans des équipes salariales avec 4 salariés sous antidépresseurs et tout, qui est quand même une grosse question. Comment est traitée la question donc des risques psychosociaux en CSE? Comment on peut voir venir cette question-là et trouver des solutions? Je ne sais pas qui veut répondre. Je saisis au vol Séverine.
L'antidépresseur naturel de la CAE, c'est peut-être le CSE, en fait.
Wow. On a une punchline.
En réalité, il y a deux aspects que je voudrais évoquer. Ce qu'on a déjà mis en place dans la coopérative Oxalis et qui s'est renforcé à l'occasion du Covid, et puis ce qu'on va mettre en place pour les mois qui viennent. Ce qu'on a déjà mis en place, c'est ce qu'on appelle le réseau vert, donc, le numéro vert. Donc il existe un numéro dans la coopérative Oxalis.
C'est le moment de le donner, là.
Qu'on peut saisir pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Voilà. Et donc il y a une cellule d'alerte qui a été... en fait, ouverte à l'occasion de la crise Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'entrepreneurs salariés, ou qu'ils soient domiciliés, qui étaient dans des situations de grand isolement à l'occasion de la crise Covid. Et donc, comme la coopérative sortait d'une crise de gouvernance, on n'avait pas toujours les ressources au niveau équipe accompagnement pour se soucier de la vie, de la bonne santé physique et mentale de nos coopérateurs et salariés. Et donc le CSE a pris le relais là-dessus et donc a conçu cette cellule d'alerte avec la direction et l'équipe accompagnement.
Et juste tout de suite, quand tu appelles ce numéro, qui tu as au bout du fil?
Eh bien, donc tu as une personne de la coopérative qui est volontaire pour répondre à des situations... d'épuisement, des situations difficiles, de fragilité psychologique. Mais donc tu as une consultante, une coach de la coopérative qui fait ça, avec une...
D'accord, qui est quand même formée à la psychologie.
Tout à fait.
Et tout ça,
parce Il y a même deux personnes possibles sur ces sujets-là. Et donc l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de ne pas s'arrêter à ce numéro qui a été, somme toute, pas mal utilisé. Hein. Il y a eu, je crois, une vingtaine de cas d'épuisement qui ont été décelés simplement avec l'existence de cette cellule alerte. Et l'idée, c'est de l'inscrire dans un parcours, ce qu'on appellerait le réseau vert, où là, on pourrait mobiliser des gens qui sont des spécialistes, pour adresser des sujets très particuliers, des personnes qui sont en grande fragilité psychologique, par exemple, du fait renforcée par une insécurité économique de par leur activité. Et ce serait un réseau de consultants auxquels on pourrait faire appel et qui serait du coup extérieur à la coopérative, mais qu'on pourrait mobiliser à la demande pour traiter vraiment la question, quoi, et pas remettre le sujet dans la nature. Et du coup, ça ouvre dans la coopérative Oxalis un chantier, là, s'ouvre à partir de septembre, donc c'est tout frais, tout beau, un chantier autour d'identifier, de repérer les risques autour... ce qu'on appelle les risques psychosociaux, tous salariés confondus, risque d'épuisement, risque de tension, de conflit avec d'autres coopérateurs, de tension économique, d'insécurité économique, etc. Et donc ce chantier s'ouvre là pour probablement un an. Et l'idée, c'est de repérer, réparer et donc de dépasser tous ces... toutes ces difficultés en formant des coopérateurs à ces sujets-là et en leur faisant retrouver du pouvoir d'agir là-dessus.
Quand tu dis former des coopérateurs, c'est des entrepreneurs salariés ou des salariés de la coopérative?
Les deux.
Ah, ok. D'accord.
Voilà, ceux qui seront volontaires, et l'idée, c'est qu'on acquiert un savoir-faire dans la coopérative grâce à des formations sur le sujet.
Ok. Voilà. Donc ça, c'est le gros chantier de la prochaine année à venir.
C'est ça.
Yes. Anne,
oui, alors,
côté Copanam.
Côté Copanam, donc pour ce qu'on a mis en on est en train de mettre en place sur la partie risques psychosociaux. Il y a notamment une partie prévention qui est en cours de réflexion sur la mise en place d'ateliers pour dans le cursus d'intégration des nouveaux coopérateurs, coopératrices. Donc quand la personne rentre en CAP, comme dans plein d'autres structures, hein, c'est pas propre à Copanam, il y a un parcours d'intégration qui à Copanam se formalise sous la forme d'ateliers successifs, et donc on est en train de créer un atelier sur qui permettra à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse de prendre en compte ses propres risques, tant physiques, puisqu'il peut y avoir des métiers où il y a des risques physiques importants, que des risques psychosociaux, que ce soit l'épuisement, etc. Donc que la personne reparte à la fin de cet atelier avec une mise en perspective des différents risques et aussi des éléments de prévention sur ces typologies de risques. Donc voilà, c'est un gros chantier qui en est au début. L'objectif étant derrière d'avoir la possibilité que chaque entrepreneur salarié ait pu faire cet atelier, qu'il soit nouvel entrepreneur-entrepreneuse ou qu'il soit entrepreneur-entrepreneuse plus ancien dans Copanam. Voilà.
Samuel, on voit que côté Copanam comme Oxalis, donc il y a des choses qui se mettent en place très concrètement là. Donc cette semaine il y a eu aussi pas mal d'ateliers sur les CSE où les coopératives ont pu parler entre elles et peut-être mutualiser leurs envies, leurs besoins. Apparemment tu as assisté à tous ces ateliers dans le cadre de ta recherche. Qu'est-ce qui en ressort? Waouh, allez, synthèse.
Avant tout, cette mutualisation, elle date pas que de la BIG. En fait, elle est issue d'une réflexion un peu en amont. Je pense au mois de mai de cette année, pardon, où a émergé l'idée de faire une inter-CSE, c'est-à-dire d'essayer de voir quels étaient les problèmes dans tel ou tel CAE, dans les CSE concernés, et de voir sur quoi certains CSE ont avancé, et sur quoi, dans certaines CAE, et dans d'autres CAE, le CSE n'arrivait pas à avancer. En fait, cette complémentarité a amené à créer une inter-CSE. Ça, c'était au mois de mai. Et à l'issue de ce mois de cette réunion qui s'est passée dans les locaux de Copanam, a été décidé de faire comme une mini-université d'été des CSE, des CAE.
À ce moment même.
Voilà, à la Bigre. Et on a proposé une série d'ateliers. Donc il y en a 4 au total, plus un qui aura lieu vendredi et qui est un atelier qui est plus un atelier recherche que moi je vais animer. Et donc à ces ateliers, il y a énormément de choses qui s'est passé. Alors je dis ça avec ma vision de chercheur, donc je trouve que tout ce qui est dit est vraiment très très intéressant. Je les enregistre même tellement je trouve ça intéressant et qui viendront nourrir en tout cas ma recherche. Et en particulier, si on doit retenir quelque chose vraiment de singulier, je pense à l'atelier qui a eu lieu ce matin, qui mettait vraiment en avant cette vision un peu en décalage finalement. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure du CSE historique, voire du syndicalisme historique qui est dans l'obligation finalement de s'adapter aux nouvelles conditions de travail et en particulier aux nouvelles conditions de travail, aux nouvelles organisations de travail qui constituent les CAE. Et on voit que rien n'est réellement complètement adapté.
Qu'est-ce qui n'est pas adapté?
Je parlais tout à l'heure de la dualité que l'on a l'impression d'avoir, c'est-à-dire entre un patron mauvais d'un côté et des gentils ouvriers de l'autre. En fait, tous ces codes changent. Et ces codes changeant à l'intérieur de ces zones grises de l'emploi que constituent les CAE, il y aurait peut-être, voire sûrement, nécessité de voir à modifier un peu le droit dans le sens où il serait intéressant d'adapter soit le code du travail, soit des conventions collectives, un peu spécifiquement à ces zones grises de l'emploi que constituent les CAE. avec sûrement des adaptations, des choses un peu améliorées, voire qui s'adapteraient en tout cas aux conditions réelles de l'emploi à l'intérieur des CAE.
Ça fait réagir Orville juste à côté de toi.
Oui, parce que chez nous en Belgique, à SmartCop en Belgique, on a particulièrement ce problème pour réellement pouvoir représenter syndicalement les membres sociétaires, parce qu'à la différence à la France, le statut d'entrepreneur salarié n'existe pas, et je pense qu'il n'y a que en France que ça existe au monde. Ça apporte plusieurs problématiques de droits sociaux, mais après ça permet aussi d'avoir un vrai statut protecteur qui confère des droits, en tout cas syndicaux. Et donc, typiquement, les législations sociales en Belgique qui cloisonnent la représentation, la candidature aux élections sociales et tout ça, pour l'instant, excluent nos membres sociétaires. Et donc, on a, comme le dit Samuel, il y a des besoins vraiment d'avoir les organisations syndicales avec nous pour essayer de changer ça. Mais ça touche à toutes les questions de nouvelles formes du travail auxquelles les organisations syndicales sont toujours aujourd'hui pas prêtes de les confronter par rapport à tout ce que ça change, les questions autour du lien de subordination et tout ça. Et donc, il y a un vrai travail de fond à faire avec eux.
Gaël, comment on peut fédérer toutes ces instances en inter-CSE et ce joyeux bordel ?
Bah déjà, on peut s'appuyer, je pense. Voilà, si on s'appuie sur les syndicats, évidemment, moi, j'y vois une solution à la fois en termes de formation, de moyens, de force. Et donc, on peut très bien imaginer à terme que les différents CSE des différentes coopératives puissent travailler ensemble, aider en cela par la CGT ou par Solidaire et d'autres éventuellement. Nous, en tout cas, à Auxalis, ça avance. On a fait, à la dernière AG, il y a eu un atelier spécifique qui s'appelait Syndicalisme et coopérative, pour savoir un peu qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui donnait envie, qu'est-ce qui était problématique, qu'est-ce qui paraissait intéressant comme perspective. Et donc, a priori, on s'oriente vers des élections au prochain CSE qui ont lieu en décembre, vers une liste intersyndicale. Pour la première fois à Auxalis. Et donc, on cherche aussi du monde parce que, comme dans beaucoup de CAE, le nombre de places disponibles justement pour faire vivre ce dialogue social et construire les propositions, dialoguer avec l'employeur pour essayer de faire avancer la COP, il y a 16 places, 8 places de titulaires et 8 places de suppléants.
C'est énorme.
Actuellement, on est à une petite dizaine à être repérés, à vouloir se présenter. Donc, on a vraiment besoin de choper 7-8 collègues de la CAE pour nous rejoindre.
Tu es en plein recrutement là, en fait.
Et faire en sorte qu'on puisse avancer sur les dossiers. Parce que des dossiers, il y en a masse, quoi. Je veux juste donner un tout petit exemple. On a pas mal bossé sur l'égalité femmes-hommes à Auxalis. Et donc, Séverine en parlait, il y a eu un gros chantier sur la maternité qui a fait l'objet aussi d'un atelier qui n'est pas dans les quatre, là, mais qui était sur la Bigre. Bah, par exemple, donc il y a eu un gros boulot d'identification de qu'est-ce que ça pose comme problématique une entrepreneuse salariée qui tombe enceinte. On a repéré un peu tous les droits auxquels elle pouvait avoir accès, etc. On a fait un peu des fiches synthétiques, etc., pour que ce soit plus simple. Mais on s'est un peu arrêté là. C'est-à-dire que pour moi, avec une dimension syndicale supplémentaire, on peut signer un accord d'entreprise pour garantir un maintien de salaire réel, comme on en a dans beaucoup d'entreprises, pour qu'au moins, dans la CAE, on ne soit pas en dessous du droit commun. Il y a quand même, enfin moi je suis venu dans une CAE, c'est pour être mieux que dans une entreprise capitaliste, quoi. Donc pour qu'on soit plus humain, qu'on travaille en intelligence, qu'on puisse construire ensemble. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut traduire dans le droit. Et je pense que les CSE ce serait facilitant pour eux s'il y avait en plus une présence syndicale. Donc là, il y en a déjà plusieurs. À Copenhague, il y en a déjà. On parlait d'Enercop. On a eu plusieurs exemples là, de CAE où il y avait des présences syndicales. Donc c'est en train de monter un peu partout. Il n'y a pas qu'à Auxalis que ça bouge.
Séverine, le mot de la fin. Pour toi, l'objectif inter-CSE 2022-2023. Une tâche pas du tout ardue de conclure, comme tu sais.
Tu peux répéter la consigne, c'est inter-CSE, c'est ça ?
Oui, voilà. Quel est l'objectif dans la mutualisation ? Quel est, le premier pas d'action vers lequel vous allez aller tous ensemble ? Il y avait cette semaine-là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
En fait, le prochain pas, c'est concrètement une date qu'on a déjà prise, parce que maintenant, on est très malin. C'est-à-dire qu'on prévoit les dates dans l'agenda quelques mois avant, sinon on sait que ça n'arrivera pas. On est supposé se retrouver avec... les membres du CSE de Copenhague le 15 septembre dans nos locaux à Vaux-en-Velin. Et donc échanger sur, très concrètement, là j'ai envie de parler de plan de campagne, de campagne de rentrée, campagne d'élection pour nous, côté Oxalis. Voilà. Copanam est passé par là il y a quelques mois, donc leur expérience sera très apprenante. Et de notre côté, on a pas mal de trucs à leur transmettre sur l'Union sociale des SCOP, a priori, pour aller obtenir et pour faire savoir aux salariés qu'il existe des œuvres sociales et culturelles, des remboursements de vacances, etc., de remboursements d'activités culturelles. Voilà.
Eh bien, je vais vous laisser terminer toutes les deux parce que j'ai envie et besoin que vous donniez cette info. Si on veut en savoir plus sur le CSE, où est-ce qu'on peut trouver de l'info ? Concrètement, chez Oxalis, chez Copanam et peut-être même chez Smart. Ah, vous ne savez pas.
Si, il y a plusieurs lieux. Donc, il y a notre extranet déjà où il y a le CSE alimente régulièrement sa page avec les comptes rendus, les informations, etc. Donc sur l'extranet, on peut trouver. Et en plus, on peut aussi trouver. Ils ont une adresse commune qui peut être mobilisée sans souci. Il y a toujours quelqu'un derrière pour répondre aux personnes qui sont intéressées. Donc voilà, extranet et l'adresse commune du CSE pour Copanam.
Sinon, pour Oxalis, il faut venir voir Séverine au bar ce soir.
Oh, bon, alors non, pas particulièrement, mais c'est une possibilité en réalité. Mais je ne sais pas si je serai de très bons conseils ce soir. Moi, je privilégie quand même, j'ai envie de parler d'abord du contact humain et donc de la possibilité d'appeler directement les personnes qui sont élues au CSE, parce que ça, c'est quand même assez fort, quoi. Voilà, donc les numéros des personnes sont dans notre base. Il y a un site qui existe, qui est notre site de com interne, qui présente aussi tout le travail de toutes les instances. Et donc, on est présent sur ce site avec toute l'actualité. Et sinon, on peut nous mobiliser avec, nous joindre sur deux adresses mail. Une première qui est réservée plutôt à la représentation des salariés sur des questions très confidentielles, confidentielles ou en tout cas très personnelles, pour défendre des intérêts très personnels. Voilà, et donc ça c'est une adresse qui commence par irp@oxalis, voilà. Et la deuxième adresse mail c'est le cse@oxalis-scope.org.
Nickel. Smart.
Pour Smart, je ne vais pas parler pour notre délégation du personnel qui n'est pas présente ici, mais par contre, s'il y a tout membre sociétaire de Smart qui nous entend, qui n'hésite pas, quand ils contactent leur conseiller ou conseillère, de demander à Orville ses coordonnées, de leur demander mes coordonnées, parce que je suis celui qui travaille, qui fait le travail de fond sur ces questions-là pour le moment, pour l'amélioration de ces questions-là. Concernant les membres sociétaires.
Et voilà, on termine là-dessus. Merci à tous d'être venus. Demain, nouvelle et dernière émission de la Bigre Radio à 7. Soyez là, je crois que c'est avec Babel notamment. Alexandre Diaconi à la technique, merci. Et très belle soirée à tous.
Bigre Radio. Bigre Radio.
Bigre Radio.
Bigre Radio.